il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Chers frères et sœurs, pour dire qui est Jésus, Matthieu ouvre son évangile par la chaîne des générations qui conduisent à lui. Au terme de celle-ci, nous apprenons que Joseph n'engendra pas Jésus, mais qu'il fut seulement l'époux de Marie. Aussi, ce passage nous donne des renseignements précieux sur Saint Joseph, dont la vocation est inscrite à jamais dans l'histoire de notre humanité. Bien, profitons de ce moment qui nous est donné pour méditer quelques instants sur la personne de Saint Joseph. Premièrement, un homme juste et droit. L'histoire de Joseph commence comme celle de milliards d'autres hommes. Il tombe amoureux d'une jeune femme. Ensemble, ils font le merveilleux projet de devenir époux. Or, voici que Joseph apprend que sa fiancée est enceinte avant même qu'ils aient habité ensemble. Je pense, frères et sœurs, qu'il vous est facile d'imaginer le trouble et même le déchirement que connut alors ce jeune fiancé dont le rêve se détruisait en quelques secondes. Mais Joseph pouvait-il seulement douter une minute de Marie? Assurément non. Mais comment faire pour admettre à l'entourage la surnature du fait? C'est alors que, dans le silence de son cœur, Joseph décide de ne pas épouser Marie et de la répudier en secret. Pour sortir de cette situation humainement insoluble, il fallait une intervention divine, un songe et la vision d'un ange. Il fallait aussi que Joseph redécouvre qu'il était fils de David, héritier de la race royale, du peuple de l'espérance, à qui Dieu avait promis qu'une vierge concevrait. Ainsi renvoyé à toute l'histoire de ses ancêtres, celle de son peuple, Joseph se souvient de l'annonce faite à David. « C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. » Ne les avait-il pas déjà si souvent méditées, ces paroles? Ainsi, ce que David et Isaïe avait reçu en promesse, Joseph allait en voir l'accomplissement. Alors Joseph prit Marie chez lui, adopta l'enfant, le faisant entrer dans la lignée qui lui permettra d'être reconnu comme Messie d'Israël, auquel est confié l'avenir de ce peuple et qui déjà porte en germe le dessein du Père pour tous. Dans cette bourgade de Galilée, un événement sans apparence, un événement sans éclat qui devait renouveler l'histoire, un événement qui commençait au cœur d'un couple qui, sans conteste et malgré les aléas, fut le plus heureux, le plus épanoui et le plus fécond de tous les couples que la terre n'ait jamais porté. Voilà, frères et sœurs, comment, d'un homme et d'une femme, Dieu réalisait des merveilles, nous donnant Jésus, vrai Dieu, né de l'Esprit Saint et vrai homme d'une descendance issue de David. Et c'est pourquoi l'enfant qui va naître à Noël porte en lui deux mondes, celui de Dieu et celui des hommes, avec sa longue histoire, ses attentes, ses maturations. Jésus-Christ, fils de David et fils de Dieu. Tel, quelques années plus tard, le confessera avec force saint Paul, mis à part pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, né de la race de David selon la chair, écrit-il, et établi selon l'Esprit, fils de Dieu. Tel aussi le confessera une multitude de baptisés auxquels, après plus de 2000 ans, nous sommes fiers d'appartenir. Le deuxième aspect de cette méditation, il faut en parler, c'est que ce récit est controversé. Oui, frères et sœurs, on ne peut méditer l'événement qui bouleversa notre histoire sans évoquer quelques instants les esprits quelque peu charnels qui ne voient dans ces récits évangéliques que des contes de Noël, et qui voudrait que Jésus eût été conçu comme tout le monde. Mais l'évangéliste ne s'embarrasse guère de reportages, de chroniques ou d'histoires. Croyant et théologien venu du judaïsme, saint Matthieu s'adresse à ceux qui savent que le Dieu d'Abraham est le Dieu des merveilles, qui ne nous sauve que parce qu'il est Dieu, c'est-à-dire autre et plus grand que nous. Et avec Matthieu, comme il nous est bon de nous rappeler que Dieu, et Dieu seul, est capable de réaliser des choses qui nous dépassent, comme la conception virginale d'un enfant, la résurrection d'un mort, ou la conversion du pain et du vin eucharistique au corps et au sang du Christ. Oui, Dieu tient ses promesses, voilà ce que Matthieu veut nous dire, lui qui en fut un des premiers témoins privilégiés, depuis le jour où, assis à son bureau de publicain, il vit le regard du Christ se poser sur lui et l'inviter à sa suite. Un troisième point de notre méditation, c'est de voir combien Joseph, mais aussi Marie bien sûr, sont un modèle pour tous les amours. Il est clair, frères et sœurs, que l'annonciation faite à Joseph ne peut se lire ni se comprendre avec nos seules conceptions terrestres. C'est pourquoi il est vain de laisser vagabonder l'imagination qui ne conduit nulle part et ne peut atteindre les vastes étendues de la foi. Pourquoi, au lieu de s'étonner ou de sourire d'une situation où la sexualité semble méprisée et l'amour humain réduit à ses dimensions platoniques, ne pas découvrir la révélation d'un amour autre et ô combien plus intense. Ainsi fut l'amour de Joseph pour Marie. Un amour qui s'est fait respect de son mystère et de sa liberté. Un amour qui fut capable de grandir en se taisant, de s'épanouir et de combler l'être aimé en s'effaçant, pour que Dieu puisse naître et prendre sa place. Un amour modèle qui fut échange toujours enrichissant et tendresse réconfortante, recueillement et admiration. Adoration même quand il reconnaît que Dieu est à l'œuvre en l'autre et qu'il y a établi sa demeure. Non, frères et sœurs, Joseph n'a pas été condamné à moins aimer, mais plutôt à aimer mieux et davantage. Et c'est mû par cet amour que Joseph, ajusté au vouloir divin, a accueilli, nourri, protégé, éduqué, aimé, travaillé. Et c'est dans cette collaboration la plus humble et la plus réaliste qui soit que Joseph va sceller l'âne, chercher l'aubergiste et disposer la paille. Voilà, frères, comment avec Joseph et Marie, nous sommes invités à chanter le bonheur des cœurs purs, délicatement attentifs à la volonté du Seigneur et joyeusement prêts à l'accomplir. Bien, maintenant, concluons cette méditation. Demain, ce sera Noël. En ces jours de préparation multiple et intensive, au milieu de nos agitations terrestres et mondaines, de nos contretemps, des courses qu'il reste à faire, des cadeaux à préparer, des rhumes à soigner, des enfants à calmer. Oui, frères et sœurs, n'oublions pas que la grâce de Noël, c'est d'abord et avant tout ce Dieu petit enfant qui vient dans le silence, par la faiblesse et non la force, parler à chacun de nos cœurs. Et dans sa fragilité, que nous dit ce bébé ? Que Dieu n'a jamais pu se résoudre à ce que l'homme se perde, se dessèche et meure. Que cette humanité rendue difforme par le péché, Dieu en demeure toujours épris. Et pour cela, frères et sœurs, il s'accorde à notre taille toute petite jusqu'à se faire dépendant entre nos mains et même nourriture et boisson. De la crèche à l'autel, quel mystère! Et ce matin encore, frappant à la porte de nos cœurs, Dieu nous dit « L'histoire de Joseph et de Marie, c'est aussi ton histoire, l'histoire d'un amour que tu as reçu au jour de ton baptême. » L'histoire d'un amour appelé à emplir et nourrir ta vie chaque jour, chaque heure et chaque instant. Oui, l'histoire de Joseph et de Marie, c'est aussi celle de ta propre vocation et de ta fidélité à celle-ci. Oui, l'histoire de Joseph et de Marie, c'est aussi et encore l'histoire de la foi que tu es appelé à nourrir et à confesser dans le quotidien pour qu'elle transmette au monde la force du mystère de l'incarnation qui habite en ton cœur. Frères et sœurs, en revivant notre salut, émerveillés devant les signes de Dieu, pouvons-nous encore douter de sa présence, de sa venue, de son approche? Et pouvons-nous encore nous taire, lui qui nous dit, et qui demain encore, depuis la grotte de Bethléem, nous redira « Je suis avec vous tous les jours. » Amen.